Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. 2025 sera-t-elle une année électorale, comme l'avait promis le général Doumbouya lors de son discours du Nouvel An? Le référendum constitutionnel est prévu dans quelques mois, ce sera le 21 septembre. Mais quid de la présidentielle? Quid des législatives? En tout cas, lundi, devant un parterre d'investisseurs économiques réunis à Abidjan, le Premier ministre Baouri a annoncé que ces deux scrutins seront couplés et se tiendront en décembre. Alors ce calendrier est-il crédible? Vos réactions évidemment nous intéressent et vous êtes nombreux à nous appeler de Guinée ce matin pour vous exprimer en direct sur RFI. 33 9 693 693 70. J'ai déjà sous les yeux un certain nombre de commentaires postés sur nos réseaux sociaux. Et vous votez également. Vous pouvez voter sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Pour l'instant, vous êtes 66%. 66% des votants affirment que oui, ce calendrier annoncé par le Premier ministre est réaliste. Le débat du jour, ce sera donc dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié pour mieux comprendre l'actualité, vos questions. Et pour commencer, nous allons au Tchad. Ossana est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les panafricains. Bienvenue à Béboto.
Béboto, dans le sud du Tchad. Vous avez des questions justement sur votre pays après la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby.
Oui, Juan, Idriss Youssouf Boy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption passive. Alors j'aimerais savoir, est-ce un règlement de compte politique ou une réalité, ou une réelle décision de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption prônée par les autorités?
Ah, bonne question que vous posez. Je ne sais pas si Nadia Ben Mahfoud peut vous répondre de façon très claire et nette. Bonjour Nadia.
Bonjour Juan, bonjour Rosana.
Vous êtes la correspondante de RFI à N'Djamena. 5 ans de prison ferme pour corruption. Faut-il y voir dans cette condamnation un règlement de compte politique?
Alors c'est pour l'instant difficile à qualifier car pour des faits similaires, Idriss Youssouf Boy avait été gracié par le chef de l'État tchadien. C'était en 2022, il avait alors été écarté de son poste de secrétaire particulier du président parce que mis en cause pour des détournements au sein de la SHT, la Société des Hydrocarbures. Officiellement, il y a eu un non-lieu pour cette affaire, mais dans son livre de Bédouin à président, le chef de l'État tchadien dit avoir fait rembourser à Youssouf Boy 13 milliards de francs CFA. Il dit aussi l'avoir pardonné et en 2023, Idriss Youssouf Boy a été rappelé par Mahamat Idriss Déby. Youssouf Boy, l'ancien tout-puissant, Macambou, comme l'appellent les Tchadiens, est-il tombé en disgrâce? En tout cas, il était jusqu'à il y a peu un personnage essentiel de l'entourage du président. Certains disent qu'il prenait peut-être un peu trop de place.
Et d'autres analystes disent qu'il s'agirait plutôt d'une question d'argent et que ces deux affaires de détournement et de corruption ne seraient finalement que la partie visible de l'iceberg.
Oui, dans le dossier SHT, comme dans celui qui a été jugé la semaine dernière, Youssouf Boy aurait usé de sa position, de sa proximité avec le président pour obtenir de grosses sommes d'argent. Lors de ce dernier procès, Idriss Youssouf Boy a nié en bloc la version selon laquelle il aurait escroqué l'homme d'affaires Abou Tachim Bouder en se servant du nom de Mahamat Idriss Déby. Mais là encore, le chercheur Wanatire Maji explique que c'était peut-être la foi de trop pour Youssouf Boy. Et puis par ailleurs, il avait la charge de réseau et d'affaires sensibles dans une publication d'Africa Intelligence. Il est décrit comme étant au cœur de lucratifs circuits de financement de matériel militaire en lien notamment avec les Émirats Arabes Unis, dont on le dit très proche. Et certaines sources expliquent que les Émiratis auraient exigé la tête de Youssouf Boy après avoir constaté des détournements de sommes importantes de leur argent.
Et avant de redonner la parole à Ossana pour sa deuxième question, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Tchad, Nadia Ben Mahfoud, il est quand même très rare pour un personnage aussi central que Youssouf Boy de se retrouver sur le banc des accusés.
Oui, habituellement, les personnages de sa trempe échappent au tamis de la lutte contre la corruption ou alors ils sont relâchés sans purger leur peine. On se rappelle de la condamnation de l'ancien maire de N'Djamena, Mahamat Zembada, en 2012, ou encore des poursuites contre Haroun Kabadi, qui est l'actuel président du Sénat. Et dans ces deux cas, les peines n'ont jamais été purgées. Pour Onati Remadji, on peut laisser le bénéfice du doute à l'AILC, qui est l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Mais pour lui, ce procès ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Il ajoute par ailleurs que ce procès n'est pas terminé. Les avocats de Youssouf Boy ont annoncé faire appel du verdict. L'affaire continue donc, et selon le chercheur, il faut aussi attendre de voir ce qui peut se passer à la fin de l'année. Avec les fêtes de fin d'année, des grâces sont encore possibles.
À suivre donc, et peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez en ce moment au Tchad, avez-vous envie de vous exprimer sur cette affaire qui défraie la chronique? N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour la libre antenne du vendredi. Osana, votre dernière question.
Oui, Juan. Comment expliquer que le plaignant soit condamné à la même hauteur que l'accusé?
Alors, le plaignant a également été condamné, Nadia Ben Mafoud, expliquez-nous.
Alors là, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé durant le procès la semaine dernière et au réquisitoire du procureur de la République. Ce dernier a demandé au tribunal de condamner les deux hommes pour corruption. Corruption active pour Abou Tachim Bouder, accusé d'avoir versé près de 10 milliards de francs CFA à Idriss Youssouf Boy pour obtenir des marchés étatiques pour sa société de travaux publics. C'était en 2021. Et puis corruption passive pour Idriss Youssouf Boy, qui est accusé d'avoir perçu cet argent afin de garantir à son accusateur l'obtention du marché en question. Et à l'époque, Youssouf Boy était encore ministre et directeur du cabinet du président.
Osana, a-t-on répondu à vos deux questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, je suis satisfait. Merci, bonne émission à vous.
Merci de vos encouragements et merci de votre fidélité. Bonne journée à Beboto et on salue tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers le territoire tchadien. À très vite, Nadia Ben Mafoud, correspondante de RFI à N'Djamena. 10h17 ici dans ce studio à Paris, 8h17 en temps universel. On repasse au standard avec des questions sur la guerre au Soudan. Bonjour Kodjo.
Bonjour Johan, bonjour tout le monde.
À Lomé au Togo.
Oui.
C'est bien ça, nous vous écoutons.
Il a un rapport d'Amnesty International dit que les Émirats Arabes Unis auraient acheté des armements chinois pour les revendre au FSR. Je voudrais savoir quelles sont les preuves que l'ONG détient.
Eh bien, on contacte pour vous Cléa Broderst, correspondante permanente de RFI à Pékin. Bonjour Cléa.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
De quelles preuves dispose donc Amnesty International pour affirmer effectivement que des équipements militaires de fabrication chinoise sont entre les mains des FSR, donc des paramilitaires, par l'intermédiaire des Émirats Arabes Unis?
Alors, Amnesty s'appuie sur une combinaison de preuves matérielles, visuelles et contextuelles. Alors, sur le site d'une frappe de drone en mars 2025 à Al-Mala, dans le Darfour du Nord, des fragments d'armement ont été retrouvés. Il s'agit là de bombes guidées GB-50A de 50 kilos, produites par Norinco, qui est une société de défense publique chinoise, parmi les plus grands exportateurs d'armes au monde, spécialisée dans la production d'armements lourds. Et ces fragments, eh bien, ils portent des marques claires, des numéros de série, style de police, fixation et lettres, autant d'éléments qui les relient sans équivoque à des modèles exposés en Chine, photos à l'appui dans le rapport de l'ONG. Et surtout, ils ont été fabriqués en 2024, impossible donc d'invoquer de vieux stocks oubliés.
Et ce n'est pas tout, Amnesty International apporte d'autres preuves tangibles.
Oui, à Khartoum, fin mars, l'armée régulière soudanaise a publié des vidéos montrant la capture de canons abandonnés par les FSR. Et là encore, ce sont des pièces produites par Norinco. Et d'après les registres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, eh bien, les Émirats arabes unis sont les seuls à avoir importé officiellement ces canons depuis la Chine en 2019. Même chose pour des drones capables de larguer les bombes guidées GB-50A et utilisées exclusivement par les FSR au Soudan, drones également livrés par les Émirats. Et le rapport évoque aussi des précédents comme en Libye où les Émirats avaient déjà réexporté illégalement des drones chinois. Et enfin, Amnesty recoupe ces éléments avec des témoignages de proches de victimes et des analyses géolocalisées de frappes récentes.
Oui, et ces drones dont vous parliez à l'instant, Cléa Broderst, permettent aux paramilitaires d'atteindre des zones situées à des centaines de kilomètres de la ligne de front. C'est le cas d'ailleurs depuis deux semaines, on vous en parle sur RFI, puisque les FSR mènent des raids aériens contre la ville de Port-Soudan où se trouve le siège provisoire du gouvernement soudanais. Kodjo, vous avez une dernière question, je crois.
Oui, oui. Et la Chine peut-elle réellement être mise en cause
dans cette affaire alors qu'elle n'a pas directement fourni les armes.
Et d'autant qu'un embargo sur les armes est en vigueur. Claire Broadhurst.
Alors, pas directement, non, car la Chine ne figure pas comme fournisseur officiel des FSR, ce qui l'écarte d'une violation explicite de ce fameux embargo onusien. Mais en tant que signataire du traité sur le commerce des armes, eh bien, elle a une obligation, c'est celle de s'assurer que ses exportations ne finissent pas dans des zones de conflit où des crimes de guerre sont commis. Et les Émirats, partenaires bien connus de Pékin, eh bien, ils ont un historique documenté de réexportation illégale. Et en continuant à leur vendre des armes sophistiquées sans mécanisme de suivi rigoureux, eh bien, la Chine s'expose à une responsabilité indirecte, qu'elle soit morale, politique ou même juridique. Donc la responsabilité, si vous voulez, directe, elle incombe aux Émirats, mais la Chine pourrait être tenue responsable d'un manquement à ses obligations internationales si elle ne prend pas de mesures, eh bien, pour contrôler l'usage final de ses exportations, notamment vers des partenaires jugés à risque, comme les Émirats.
Ouais. Et quid de Norinco, l'entreprise chinoise qui fabrique justement ces armes ?
Eh bien, Norinco est au cœur de cette affaire. Ce géant de l'armement, qui est le bras armé de l'État chinois, n'a pas livré directement au FSR, mais il n'aurait rien fait non plus pour éviter que ces bombes et ces canons ne leur parviennent via un intermédiaire pourtant bien connu pour ces violations des embargos. Alors Amnesty rappelle qu'une entreprise, même publique, a le devoir de respecter les droits humains tout au long de sa chaîne. Et Norinco a été contacté par l'ONG, mais n'a pas répondu. Et ce silence, dans un contexte de guerre et d'atrocités documentées au Soudan, eh bien, il est lourd de sens. Conclusion: les armes sont chinoises, le transfert est émirati, les violations sont soudanaises. Amnesty appelle aujourd'hui à un embargo élargi sous tout le territoire soudanais et à un moratoire immédiat sur les ventes d'armes aux Émirats tant qu'ils n'auront pas mis fin à ces détournements.
A-t-on répondu à vos questions, Kodjo ?
5 sur 5, très clair, merci beaucoup et merci à tout le monde.
Et surtout à Cléa Broadhurst, correspondante permanente de RFI à Pékin. Les explications de Cléa sont à réécouter à tout moment sur notre application RFI Pure Radio. 8h22 en temps universel, j'accueille Jean Bernard, bonjour.
Bonjour Juan.
Au Cameroun, à Douala.
Oui, à Douala.
C'est bien ça, nous vous écoutons.
Des Sud-Africains blancs ont quitté l'Afrique du Sud pour s'installer aux États-Unis avec le statut de réfugié. Pourquoi l'administration Trump leur a accordé ce statut ? Quel est le profil socio-économique de ces Sud-Africains ?
Oui, ils sont 49 Afrikaners. Ils sont arrivés lundi aux États-Unis à bord d'un avion spécialement affrété par le gouvernement américain et ils ont été accueillis en grande pompe à l'aéroport de Washington. Bonjour Cécile Perrault.
Bonjour.
Cécile Perrault ?
Oui, vous m'entendez ?
On vous Bonjour. Entend 5 sur 5. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Rennes, de spécialiste de l'Afrique du Sud. Expliquez-nous pourquoi Donald Trump offre-t-il le statut de réfugié aux Afrikaners ?
Alors effectivement, ça peut paraître surprenant à un moment de fermeture des frontières des États-Unis, qu'on a pu constater assez largement ces dernières semaines. Or, Donald Trump fait une exception pour ces Afrikaners blancs. Pourquoi ? Alors, d'une part, on peut avancer le fait que le profil de ces familles blanches, issues d'un milieu rural, fait écho au grand thème de la galaxie MAGA. Donc, y a cette dimension-là. Et puis, deuxième point qui est souvent mis en avant, c'est l'influence des nombreux magnats blancs sud-africains dans l'entourage de Trump, Elon Musk bien sûr, mais aussi David Sachs, Peter Thiel, et qui influeraient sur ses positions.
Excusez-moi, Cécile Perrault, accorder le statut de réfugié à une personne, c'est que cette même personne est victime de discrimination, et c'est sur ce point qu'insiste le président américain.
Tout à fait, et c'est ce point que, bien sûr, conteste le président sud-africain en disant que ces accusations de génocide de fermiers blancs ne reposent sur aucun fait réel. Il met en avant le fait que les meurtres de fermiers blancs ne sont pas significatif dans un contexte de violence réelle dans la société sud-africaine. Il n'y a pas spécifiquement focalisation sur cette population-là. Et il met en avant le fait qu'au contraire, c'est une population plutôt favorisée dans le contexte sud-africain. Les fermiers blancs appartiennent à l'élite socio-économique du pays.
Ils détiennent aujourd'hui plus de 70% des terres agricoles en Afrique du Sud.
Tout à fait. Les Afrikaners, c'est 4,5% de la population. environ 60% de la population blanche en Afrique du Sud, avec une emprise foncière très importante qui a peu évolué depuis la fin de l'apartheid. Et la décision de Donald Trump intervient aussi dans un contexte post-loi sur une expropriation des terres qui a eu lieu en janvier 2025 et qui est interprétée comme une attaque directe sur cette population, mal interprétée comme une attaque directe contre cette population.
Oui, puisque cette loi autorise des expropriations de terres sans compensation, mais enfin, il y a tout un processus à mettre en place avant que, effectivement, un propriétaire terrien se voit retirer sa parcelle sans que l'État ne lui délivre le moindre dédommagement. En tout cas, d'après le président Ramaphosa, le président sud-africain, cette nouvelle loi qui fait polémique, effectivement, et qui est dénoncée par Trump, elle est conforme à la Constitution. A-t-on répondu à vos questions, Jean-Bernard ?
Oui, ça va, c'est bon.
C'est bon. Bah, écoutez, on est là pour mieux vous expliquer l'actualité, vous permettre de mieux comprendre les sujets que nous évoquons dans nos différents journaux et que vous pouvez consulter évidemment à tout moment sur le site RFI.fr. Cécile Perrault, bonne journée, maître de conférence à l'Université de Rennes 2. Bonjour Laurent. Laurent, êtes-vous là ?
Oui, je suis là.
Vous êtes là, et nous aussi, on est ravis de vous entendre. Vous êtes à Kinshasa, quelles sont vos questions ?
Voilà, ça fait très longtemps que je n'entends plus parler du conflit entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte autour du grand barrage de la Renaissance. En septembre dernier, l'Égypte a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies accusant l'Éthiopie de menacer la stabilité régionale. J'ai des préoccupations. Où en est-on avec le traitement de cette plainte ? Qu'espère obtenir l'Égypte ?
Franck Galland est avec nous pour vous répondre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la géopolitique de l'eau. En deux mots, expliquez-nous pourquoi ce barrage qui suscite des crispations, des tensions dans la sous-région, pourquoi ce barrage est-il crucial pour l'Éthiopie ?
Alors, votre auditeur a raison. Début septembre, le ministre des Affaires étrangères égyptien a adressé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour exprimer la vive opposition de l'Égypte aux actions jugées unilatérales de l'Éthiopie qui continue effectivement de construire ce barrage Renaissance. Ce barrage Renaissance sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. C'est 74 milliards de mètres cubes d'eau emprisonnée et à l'évidence, l'Égypte craint une problématique de réduction de débit en entrée de son territoire et en fait clairement un sujet de sécurité nationale et de défense puisque 95% de la population égyptienne vit sur les rives du Nil. Cette population égyptienne a explosé durant les 20 dernières années, atteint aujourd'hui 112 millions de personnes. 98% de l'alimentation en eau de l'Égypte vient du Nil. Et donc, la moindre réduction de débit du Nil en entrée de territoire égyptien aurait d'énormes conséquences sur l'alimentation en eau des populations, sur l'agriculture. Rappelons de ce point de vue que l'Égypte a une forte dépendance aux importations alimentaires. Plus de 60% du blé consommé, par exemple, est importé. L'Égypte craint des conséquences sur le barrage hydroélectrique d'Assouan. L'Égypte craint des problèmes de salinisation des sols et donc des conséquences sur l'agriculture égyptienne. Mmh. Donc c'est clairement un casus belli aujourd'hui pour le président.
Et excusez-moi, Franck, et c'est pour ça que l'Égypte parle clairement d'une menace directe pour sa sécurité nationale. Quid donc de ce courrier adressé par l'Égypte au Conseil de sécurité de l'ONU en septembre ? Est-ce que vous en savez plus, Franck Galland ?
Alors, en fait, ce courrier prend la suite de deux premières saisines en juin 2020 et en juin 2021. Et en fait, ce courrier fait référence à l'article 37 de la Charte des Nations Unies qui invoque une menace pour la paix et la sécurité internationale. Donc, il est traité au meilleur niveau et il est fort à parier que les États-Unis vont s'impliquer sur le sujet comme Donald Trump l'avait fait en novembre 2019, juste avant la crise Covid, où, rappelons-le, il avait convoqué les ministres des Affaires étrangères égyptiens, soudanais et éthiopiens à Washington pour des négociations sous l'égide de la Banque mondiale, de David Malpass et du secrétaire d'État au Trésor de l'époque, David Mucheng.
Oui, et des négociations qui n'ont rien donné puisque l'Égypte, vous le disiez en préambule, Franck Galland, continue de remplir ce barrage. Merci d'avoir été avec nous.